J'aimerais qu'on prenne l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. J'avais parlé une fois ici de l'obsession constante de Dieu. Dieu est absolument et complètement obsédé par sa création. Dieu ne peut s'empêcher littéralement de penser à toi. Il n'y arrive pas, il ne peut pas s'en empêcher. Parce que Dieu, il n'est pas amour, s'il n'a pas une attitude d'amour, mais Dieu est amour. Ça ne veut pas dire que c'est l'entité d'amour que nous adorons, mais il n'y a juste pas de mot assez grand dans notre vocabulaire pour décrire l'amour que Dieu a. Alors en grec, ils avaient 5 mots pour l'amour. Hein, vous savez qu'en français, ici, on a aimé, voilà, apprécié, on a peut-être, mais vraiment amour, il n'y a pas beaucoup de mots. Eux, ils avaient pour le mot amour, ils avaient 5 mots selon le contexte dans lequel ça se tenait. Un mot très célèbre dans nos églises chrétiennes, c'est agapé, l'amour. L'amour sans agenda, sans limite, l'amour divin, l'amour qui n'a pas de conditions. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer sa création, ses créatures. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas juste aimé, Dieu, il a tant aimé. Alors, c'est quoi, tant aimé? Est-ce que tu as déjà vu des parents avec la maladie de l'amour? Ma sœur a un petit bébé qui s'appelle Élise. Et constamment, ce bébé est son obsession. C'est magnifique à voir. Quand le bébé n'est pas là, elle se sent mal. Elle voudrait aller voir si tout va bien. Si cette petite créature, eh bien, est-ce que ça va? Est-ce qu'il peut être à l'extérieur? Est-ce que c'est fait pour aller à l'extérieur? Oui, des parents avec la maladie du temps, ça rend un petit peu bizarre. Ils en deviennent ridicules. J'ai rencontré un père cette semaine d'un petit garçon, c'était mon cousin par alliance, qui parlait de son fils de 7 ans qui jouait bien au foot. Il a 7 ans, il est gardien, il joue avec les 9 ans, donc il demande certaines capacités. Et alors on a demandé à son père s'il pouvait venir passer les tests pour l'équipe de Charleroi, les petits. Alors la fierté de son père, c'était beau. Je l'imaginais courir à côté du terrain. Vas-y, fils, défonce-les. Mais papa, on est chrétien, c'est pas grave. Ça devient une obsession, c'est la maladie du tellement, la maladie du temps. Quand je m'imaginais en père dans le futur, moi je sais pas, j'y m'imaginais en père cool. En père cool. Mais puis, alors que les années passent, je me rends compte qu'il y a beaucoup de papas qui voulaient être cool. Il y a beaucoup de papas qui voulaient être cool. Imaginez quand j'ai appris que mon père avait des tendances hippies avant. Ce n'était pas l'image que j'avais de lui. Mais je l'ai vu sur une photo avec des longs cheveux et une moustache. C'était absolument spectaculaire. Mais oui, parce qu'il y a l'amour qui arrive. Mais pas juste un amour normal. C'est un amour tant, un amour tellement. Dieu est obsédé par ses créatures, il les aime tant, il les aime tellement. C'est la maladie du tellement. Cet amour, il est illogique, il est ridicule. Tu ne peux pas le compter, tu ne peux pas l'ajouter mathématiquement, il n'a pas de sens, c'est juste de l'amour tellement. L'amour tellement t'empêche d'être cool. Et cool, parfois, c'est une priorité haute pour moi. Les parents, ils vont comprendre l'obsession que l'amour tant y donne. Dieu a un amour encore plus obsessif pour nous. Dieu ne peut s'empêcher, il n'arrêtera jamais de te regarder, de te suivre. Je ne sais pas s'il y a ici des jeunes filles qui ont déjà eu un garçon qui était amoureux d'elles. Mais les sentiments n'étaient pas partagés. Alors c'est un petit peu bizarre quand ça arrive, parce qu'il te regarde tout le temps. Il t'observe, c'est un peu bizarre. Et bien, vous savez, dans notre histoire, Dieu fait la même chose. Moi, je suis certain, quand tu t'endors le soir, Dieu, il est là. Oh, j'aime bien qu'on respire comme ça. Oh, et il ne te lâchera pas. Et parfois, on essaye d'envoyer Dieu promener, un peu comme nos parents. Dieu, mais arrête! Non, mais laisse-moi tranquille! Non, mais ça suffit! Mais Dieu, il ne laisse pas tomber. L'amour, c'est le thème de notre existence. Nous sommes l'objet de l'obsession de Dieu et rien ne peut changer cette obsession. Tu es l'objet de l'obsession de Dieu. Tu es l'objet de l'amour tellement de Dieu. J'aimerais qu'on regarde ici, aujourd'hui, à une histoire qui s'est déroulée il y a longtemps, environ 750 ans avant Jésus. Avant que Jésus vienne sur terre pour régler le problème du péché. On peut voir l'amour inconditionnel de Dieu. On peut voir l'amour exprimé dans la vie d'un homme appelé Osée. Osée était un prophète qui vivait dans le nord d'Israël. On peut retrouver ça dans Osée. C'est facile. Maintenant, beaucoup de prophètes, ils ont des missions étranges données par Dieu. Ils devaient parfois être le reflet de leur propre prophétie avec leur propre vie. C'est-à-dire que si Dieu était triste, il devait pleurer. Si Dieu était en colère, il devait être en colère. C'était un petit peu ça, le prophète. Il reflétait par sa vie le message que Dieu voulait transmettre. Il faut dire que Osée reçoit une mission un peu ridicule, bizarre et même honteuse. Dieu appelle Osée, il doit être un prophète, la voix de Dieu en Israël, une figure publique. Et Dieu lui dit d'aller marier une prostituée. Tu imagines Osée, pardon, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Seigneur, j'ai pas bien compris. Tu veux que je marie une prostituée? Dieu, il n'y a pas beaucoup d'explications qui nous sommes données, mais Dieu juste dit à Osée, oui, non, fais-le. Va marier une prostituée. Donc Osée épouse une prostituée qui s'appelle Gomer. Et au tout début, ça semble aller bien. Ils ont un fils qui est mis au monde. Puis il y a une fille, puis un autre fils. On a quoi, 2 ou 3 ans où le mariage semble plutôt bien se dérouler. Ça semble très familier. Et puis, un matin, le prophète de Dieu, Osée, se réveille. Et Gomer n'est pas là, sa femme n'est pas là. Elle n'est pas dans le lit, elle n'est pas dans la cuisine, elle n'est pas avec les enfants. Il regarde un peu partout, elle est juste partie. Il est maintenant père célibataire avec 3 enfants. Il faut bien imaginer que ce prophète est probablement une figure publique en Israël. C'est le prophète de Dieu. Imaginez la honte. Imaginez la honte. Le prophète Osée doit se dire... Je dois diriger le peuple d'Israël, je dois être la voix d'espoir en Israël, et j'arrive même pas à garder ma femme à la maison. La Bible ne nous dit pas ce qui est arrivé directement après que Gomer ait quitté Osée. Mais imaginez les nuits noires que le prophète devait avoir, les nuits de dépression. Pour ceux qui ont subi un déchirement du mariage, ils comprennent la douleur que ça peut engendrer. Mais éventuellement, Dieu vient parler à Osée et lui dit « Va retrouver ta femme et épouse-la une fois de plus. » Encore une fois, Seigneur, oui, encore une fois. Il faut donner du crédit à Osée, c'est un gars spécial et courageux. Et dans le chapitre 3, nous pouvons reprendre l'histoire dans le verset 1. Chapitre 3, verset 1, « Va encore, et l'Éternel me dit, va encore aimer une femme adultère, aimant le mal, aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que ceux-ci se tournent vers d'autres dieux et se délectent des gâteaux de raisins qui ont été consacrés aux idoles. » Maintenant, la nation d'Israël dans laquelle vit Osée était en période de prospérité importante. C'était un moment où personne n'attaquait Israël, les gens pouvaient... Vraiment, il y avait une prospérité qui était absolument exceptionnelle pour Israël. Il y avait tout qui marchait bien. Et cette nation d'Israël, elle avait 3 conceptions, 3 visions de l'amour. Ils pensaient en premier que l'amour pouvait être acheté. En deuxième, ils pensaient que l'amour était la poursuite de la satisfaction personnelle. Et troisièmement, ils pensaient que l'amour pouvait être reçu et trouvé dans les objets inanimés, dans des objets. Alors qu'on comprend la vision de l'amour qu'a Israël, on peut y retrouver pas mal de similitudes à l'époque d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré des gens qui pensaient que l'amour peut être acheté, ou que l'amour peut être trouvé dans des objets. L'amour, ce n'est pas pour soi-même. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Et Dieu, il décide. Je vais démontrer à mon peuple ce que c'est vraiment l'amour. Un érudit a écrit qu'en dehors de la croix et du sacrifice de Jésus, l'histoire d'Osée et Gomère est la plus grande expression de l'amour de Dieu dans toute la Bible. Donc Osée a cette mission d'aller chercher sa femme. Il doit trouver sa femme dans les endroits où les hommes de Dieu ne devraient pas aller. Il doit trouver sa femme dans les endroits où les hommes de Dieu ne devraient pas aller. Allez, imaginez la célébrité Osée, l'homme saint, le prophète de Dieu. Et il a reçu la mission d'aller dans le quartier rouge retrouver sa femme. Ce coin-là de la ville. Bonjour, est-ce que vous auriez vu ma femme? Quoi, ta femme? Gomère? Non, je l'ai pas vue. Oui, écoute, ça fait un peu de temps qu'elle est plus là. J'ai vraiment besoin de la retrouver. Écoute, non, moi, je l'ai pas vue, ta femme. Et tout, peut-être qu'il a dû demander à des anciens clients. Est-ce que tu as vu ma femme? Ta femme? Oui, je l'ai vue, je savais pas que vous étiez encore ensemble, je suis désolé. Oui, ça m'est égal. Dis-moi juste où elle est. Elle est quelques rues plus bas. Et donc, Osée, il arrive dans ce quartier rouge. Et ce que beaucoup d'érudits pensent, c'est qu'il a trouvé sa femme en train d'être vendue sur le marché des esclaves, le marché des prostituées. Ce que les érudits pensent, c'est que Osée est arrivé sur une vente publique, une vente aux enchères. Il arrive aux enchères et sa femme est en train d'être vendue. Et excusez-moi monsieur, c'est ma femme que vous avez là. Ça m'est égal qui elle est à moi et elle est à vendre. Voici le prix. On imagine Gomère remplie de honte qui n'arrive même pas à regarder Osée. Qui n'arrive même pas à penser qu'il allait venir jusque cette partie-là de la ville. Et payer le prix de l'enchère. Est-ce qu'il a dû enchérir? Est-ce qu'il a dû payer plus que certains? Le prix de la Bible nous indique qu'il a payé 15 pièces d'argent et 500 kilos d'orge. L'évangile, il est juste là. Osée dit, quel que soit le prix, je le paierai. Attends une seconde. Osée, il est en train de payer pour quelque chose qui lui appartient déjà. Il paye deux fois. Mais non, je vais payer pour quelque chose qui m'appartient déjà. Psaume 24, psaume de David, verset 1. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Pourtant, Dieu envoie son Fils pour payer pour nous. Dieu envoie son Fils pour payer quelque chose qu'il avait déjà. L'univers et ceux qui habitent appartiennent à Dieu. Dieu paie pour quelque chose qu'il avait déjà. Et ensuite, Osée renouvelle, après avoir payé, il renouvelle ses vœux avec sa femme. Et lui dit, reste longtemps pour moi et ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Il la remarie. Puis l'Esprit Saint se remplit Osée et lui permet de prophétiser de manière suivante. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans thérapim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Alors, Osée utilise le mot David, mais il ne veut pas parler de David. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée ne parle pas de David, il parle de Jésus, mais il ne connaît pas encore Jésus, il ne sait pas comment l'appeler. Alors il l'appelle David. Mais David est une promesse messianique. On appellera Jésus d'ailleurs fils de David. Il viendra un jour où tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté. Les gens seront dans l'étonnement à la vue de la bonté de l'Éternel. Ce n'était pas les jours dans lesquels Osée vivait. C'est nos jours. Quand je voyais tous ces non-chrétiens hier qui tressaillaient à la vue de la bonté de l'Éternel, comment ça se fait que quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, d'insensé, puisse avoir un salut? Mais c'est parce que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos actions. Ça dépend de Jésus. Donc Osée parle d'une époque où le peuple de Dieu sera en étonnement devant sa bonté. C'est la bonté de Dieu qui amène les gens à changer. Qui est Osée? Dieu. Ça veut dire quoi, Osée? Ça veut dire salut. C'est qui, Gomer? Qu'est-ce que ça veut dire, Gomer? Ça veut dire tout est accompli, accomplissement. L'évangile est juste là. Osée est notre Dieu et Gomer, eh bien, c'est moi, c'est toi. Dieu n'arrêtera jamais de chercher sur les coins les plus horribles de la planète pour des gomères. Il n'a pas peur de se salir les mains. Jésus, c'est mon Osée, il me complète. Il ne faut rien ajouter comme prix, il a mis l'enchère la plus haute. On demande à Jésus pourquoi est-ce qu'il mangeait et était avec des gens horribles, des assassins, des voleurs. Et Jésus cite un passage du livre du prophète Osée. « Allez et comprendre ce que je veux dire. Ce qui m'intéresse, c'est la grâce et non les sacrifices. Parce que je suis venu ici pour sauver les perdus, pas pour ceux qui pensent être justes, mais pour ceux qui savent être perdus et ont besoin d'être sauvés. » Ce que Jésus veut dire, ce qu'il vient de dire, c'est « Je suis ton Osée ». Je suis celui qui vient payer pour toi. Osée, c'est Jésus, et quand tu comprends que tu es gomère, tu comprends qu'il y a des gomères autour de toi également. 1 Jean 4, versets 9, 10 et 11. Voilà comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Tu es complet, tu es accepté, tu es aimé. Tu es complet, tu es accepté, tu es aimé. Tu es pardonné. Le monde veut faire croire aux gens qui sont incomplets, rejetés, et qu'ils doivent payer. Ça, c'est pas la croix. La croix dit qu'on est complet, qu'on est accompli, qu'on est aimé, qu'on est accepté comme tu es. Il n'y a pas quelque chose de spécial que tu dois faire en plus que d'accepter Jésus. Quand tu comprends cela, il y a quelque chose en toi qui commence à déranger. J'ai déjà rencontré des évangélistes et je suis toujours impressionné. Je suis pas évangéliste. Hein. Je suis toujours impressionné par leur facilité de parler de Jésus. Allez, ils sont infatigables. Comme j'ai déjà traduit des évangélistes en Belgique, ici, ils venaient pour une semaine. Ils parlaient anglais, moi je traduisais en français. Infatigables. Quand on allait quelque part, ils allaient trouver quelqu'un à qui parler de Jésus. Ça en devenait limite irritant pour moi. Je devais traduire. J'étais dérangé par ça. Mais on va dormir et lui, il trouve encore quelqu'un pour parler de Jésus. Mais... Ça, c'est les évangélistes. Ils ne s'arrêtent jamais pour l'évangile. Mais au-delà de ça, pour le chrétien en général, est-ce qu'il y a un appel d'évangélisation? Est-ce qu'il y a un appel pour toutes ces gomères à l'extérieur? L'évangile, je vais vous avertir, l'évangile, il va détruire tous vos plans. Ça va tout changer. Dieu, il va arriver et il va faire une démonstration de son amour. Et ça va être plein de désordre, ça va être plein de... Ouais, voilà quoi. Moi, j'ai connu cet amour. D'abord, Dieu, il a amené son amour et il a changé un petit peu la donne. J'étais beaucoup rejeté dans mon adolescence, incapable de me contrôler, moyen en tout. J'étais même pas bon à rien, j'étais moyen en tout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous êtes bon à rien, vous êtes bon à une chose, c'est rien faire. Moi, j'étais moyen en tout. Et Dieu, il a changé la donne. Il arrive et il dit, non, moi, j'aime pas les cartes qu'on t'a données, voilà des nouvelles. Il reconstruit par son amour, je suis certain qu'il a fait ça chez beaucoup d'entre vous. Il t'a pas oublié, il m'avait pas oublié. Et puis Dieu, il commence à toquer. Il toque à la porte des cœurs. Moi, j'avais d'autres plans que de rester en Belgique. Il y a quelques années, moi, j'en avais marre des Belges qui pensaient petits, qui étaient découragés quand il y avait de la pluie. Enfin, voilà quoi. J'avais voyagé au Canada, au Moyen-Orient. J'avais vu que le monde était grand, qu'il y avait des belles choses à voir. Moi, j'étais parti, j'étais lancé. Ambition 200%. Alors, je voulais partir. Je voulais partir dans les grandes églises internationales et voir grand. Et puis Dieu, et ben... Et puis Dieu, il est venu avec son amour illogique, indomptable, qu'on ne peut pas compter. Et il me laisse en Belgique. Et même quand j'arrivais à partir à l'étranger, il y avait ce désir, ah, faut que je revienne. Ah mais non, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me laisses pas faire, je sais pas moi, des business, et puis voilà, on va bénir les gens avec ces business-là, non? Benjamin, il y a plein de gomères en Belgique, il y a plein de gomères en Wallonie. Ne te méprends pas, moi je ne prends pas pour osé. Je suis la dernière personne qui pourrait être osée. Mais je m'identifie à gomère. Moi je sais qui s'est osé, c'est Jésus. Pour pouvoir suivre Jésus, il faut mourir à soi-même, mourir à ses propres plans, à ses propres désirs. Alors ça ne veut pas nécessairement dire faire des grandes décisions publiques, pleines d'esbroufes, mais ça veut dire être disponible pour Dieu. Ça veut dire que quand je vais au travail, à l'école, je reste sensible pour que Dieu puisse agir à travers moi. Pour toutes les gomères qui sont là. Parce que Dieu, il n'arrête pas, hein. À chaque fois que je parle à Dieu, il me parle des gomères. J'en ai un mal de tête. Alors on change nos plans, parce qu'on sait que c'est la bonne décision. Moi j'étais gomère, on est venu pour moi. Est-ce que tu voudrais pas aller vers les gomères? On a des vies chrétiennes longues et pleines d'enseignements en Belgique. On connaît Dieu, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, donc on essaie du mieux qu'on peut de tenir bon, d'avancer. Le Belge a tendance à penser petit, mais moi je connais un Dieu qui pense très grand. Moi je connais un Dieu qui voit à Liège, à Charleroi, à Namur, en Wallonie, des centaines de personnes qui adorent Dieu dans les églises. Moi, je connais un Dieu qui voit des jeunes dans les rues, qui parle de Jésus aux gens. Et que le chrétien n'est pas dans ses conceptions, ça ne va pas marcher. Les gens vont être fermés. Mais oh, les gens sont ouverts. Ben oui, ils sont ouverts. Tu prêches l'évangile. Tu leur donnes à boire. C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais venu avec une équipe de Norvège en février ou mars, je ne sais plus. On a fait 5 villes wallonnes. Tous les échos des églises, c'était « je n'imaginais pas que les gens étaient aussi ouverts ». Et la question qui trottait dans ma tête, est-ce qu'on avait essayé avant? On a des préconceptions. Moi, je pense qu'on est tous des moutons, mais qu'on a quand même des dents. Le chrétien, ce n'est pas une victime. J'ai déjà été mordu par un mouton, ça fait mal, hein? Vous ne devez pas avoir honte de votre foi dans la splendeur de Dieu. Dieu, il est grand. Dieu, il écrase toute domination, tout plan de l'ennemi. Hier, moi, j'ai vu une œuvre de l'ennemi, la mort de quelqu'un, et en même temps, je voyais la splendeur de la croix, des gens touchés par le message de l'Évangile. Mort, où est-ce qu'elle est ton aiguillon ? Il faut partager cette nouvelle, il faut l'annoncer. Il ne veut pas nous lâcher, Dieu. Il ne nous lâchera pas. Alors, église de Boisdevillers, moi j'ai quelque chose à vous proposer. Je n'ai pas de plan. Je n'ai pas un plan en trois points d'évangélisation de Boisdevillers. J'ai juste un appel. C'est dire, est-ce que tu as envie de répondre au cri du cœur de Dieu ? Ça veut dire se mettre devant sa parole chaque jour et écouter ce qu'il a à dire. Ça veut dire faire preuve de discipline spirituelle et mourir un peu à soi-même chaque jour. Ça fait environ un mois que je jeûne des trucs. Enfin, non, ça fait un mois que je jeûne certaines choses. Donc le jeûne, c'est pas nécessairement de la nourriture, ça peut être plein de trucs. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que je sens que ma chair, elle a envie de faire ce qu'elle veut. Mais je prie, Seigneur, rends-moi dur comme le fer pour que quand je parle de ton évangile et qu'il commence à pleuvoir, eh bien, je ne m'enfuis pas. Que quand je parle de ton évangile et que quelqu'un s'énerve devant moi pour toutes les souffrances qui lui est arrivée, je puisse dire, tu partages ta tristesse et Dieu la partage aussi. Moi, j'étais convaincu. Plutôt je parlais à quelqu'un qui me demandait comment Dieu il peut faire ça, comment Dieu il peut laisser ça arriver, un jeune homme de 26 ans mourir, c'est horrible. Ah oui, c'est horrible. Moi je voyais Charles le père qui pleurait pour la mort de mon cousin. J'imaginais la souffrance de Dieu de voir ça arriver. Alors, il y a Jésus qui donne de l'espoir, mais la souffrance elle est là pour les gens qui restent, c'est vrai. Je lisais l'histoire de Job il y a une semaine. Et tout ce que Job demande à Dieu, c'est « Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Et la réponse de Dieu, elle n'a absolument rien à voir avec ce que Job demande. Elle est absolument à côté de la plaque. Mais il y a beaucoup d'érudits, et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait son doctorat là-dessus, c'était vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'érudits qui pensent que la réponse de Dieu, elle est à côté de la plaque parce qu'il ne se met même pas dans la chaise de l'accusé. Vous comprenez, ça ne viendrait même pas dans la tête de Dieu de nous faire souffrir, mais c'est le monde dans lequel on vit. Et les gens qui ne croient pas en Dieu, ils vont bien vite pour l'accuser. Maintenant, je préviens, ça va être plein de désordre de répondre à l'appel de Dieu. Ça va être cet amour inconditionnel, ridicule, où tu ne peux pas être cool. Je travaille avec une organisation qui s'appelle Jesus Revolution. Et le but, c'est d'amener l'évangile aux jeunes et à travers les jeunes, dans le monde entier, à travers l'église locale. Et il y a quelque chose qu'ils font toujours, c'est des danses, des pièces de théâtre. Et le mot d'ordre qu'ils se sont donné, c'est si les jeunes aiment telle musique, on va faire une danse sur telle musique. Si les jeunes aiment ce site web, eh ben on va évangéliser sur ce site. C'est vraiment, ils veulent être les plus pertinents possibles. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des jeunes qui font du hip-hop, de la danse sur du dubstep. Enfin, c'est des trucs très cool. Ça donne bien, c'est beau à voir. Ça donne envie aux jeunes. Et c'est une bonne chose. Mais il y a un moment donné où il faut lutter contre soi-même. Alors peut-être que ça ne vous parle pas d'être cool parce que vous avez abandonné l'idée d'être cool il y a des années. Mais il y a peut-être une chose qui va vous parler. C'est de bien penser que chaque jour, il faut une décision de prendre sa croix et de suivre Jésus. Qu'il faut aller trouver les gomères à l'extérieur, qu'il faut être disponible pour ces gens-là. Moi, ce que je te prie pour la Belgique, c'est de laisser Dieu agir. De dire, Seigneur, moi je suis disponible quand tu as besoin. Quand tu vas dehors, tu vas voir les gens qui sont aux enchères. Il y a tellement d'enchères, Il y a tellement d'âmes sur les enchères de l'humanité. Gomer, il était aux enchères. Nous, on était aux enchères. Jésus l'a payé. Il faut aller dire ça aux gens. Il faut arriver. Des moutons pleins de dents. Alors, je veux faire un appel maintenant. Tu veux bien aller au piano et jouer quelque chose, Camille ? On va peut-être prendre 2-3 minutes de méditation personnelle en soi et se mettre devant Dieu, si tu as vraiment envie. Dire « Seigneur, moi je suis disponible. » Alors pour t'encourager, Dieu il t'aime tellement qu'il ne fera jamais quelque chose pour ton mal. Donc si on se met disponible à Dieu, eh bien tu vas juste aller vers le bonheur et la sainteté. Dieu veut que tu sois heureux et saint. Mais est-ce que tu veux bien répondre à l'appel de Dieu en disant « Moi Seigneur, je suis disponible. » Si tu veux faire quelque chose, je suis là. Je ne vais pas me laisser abattre par les circonstances, abattre par peut-être ma vie qui est totalement incertaine, mais je vais être disponible pour toi. Si tu n'as pas de but dans la vie, tu vas peut-être en trouver un en faisant ça. Tu vas sûrement en trouver un, tu vas trouver le meilleur des buts. Seigneur Père éternel, on vient devant toi avec un esprit plein d'humilité, Jésus.